Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à toutes et à tous, c'est La Trèfle. Je suis ravi de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Deep Talk, émission dans laquelle je débat avec des acteurs de la discipline sur des thèmes d'actualité autour de notre sport. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Durant ces premières émissions de l'hiver, le premier thème abordé est « Peut-il y avoir du bon ?» dans une année de confinement, quand on n'est pas protégé par son classement. Alors, pour en parler, mon invité, Mathias Bourg. Salut Mathias.
Salut Arnaud, ça va ?
Écoute, très bien, je suis très très content de te recevoir, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas d'échanger tout simplement avec toi. On va retracer ton parcours, on va parler de cette année 2020 et on va peut-être évoquer ensemble aussi, pourquoi pas, le futur et tes objectifs, les perspectives un petit peu de l'année 2021. Alors, pour revenir un petit peu sur ton parcours, et je te laisse parler, justement, toi, tu as un parcours très fédéral, finalement, dans ta formation. Tu es passé par l'Épaule France.
En fait, je suis arrivé à Boulouris, déjà, donc, qui est le premier pôle pour les joueurs de tennis, à l'âge de 14 ans. Donc, je suis arrivé sur la dernière année possible. Ensuite, je suis arrivé à l'INSEP où j'ai fait 3 ans, donc de 2010 à 2012. J'ai eu mon bac là-bas et j'ai été avec Lucas Pouille et Grégoire Barrère, puisqu'ils sont de la même génération.
La fameuse, génération 94, enfin fameuse.
C'est ça, avec Laurent Locolli aussi. Hein,
avec Laurent Locolli aussi, le quatrième en effet.
Et puis ensuite, j'ai intégré le CNE, Centre National d'Entraînement. Dans un premier temps, avec Lucas, on était sur un groupe avec Emmanuel Planck. Puis au bout de 2 ans, Lucas ayant énormément progressé, est parti en solo avec Manu. Moi, j'ai continué avec Olivier Malcor pendant 3 ans. Et à la fin de cette collaboration, j'ai un tout petit peu travaillé avec Thierry Tulane. Donc, grosso modo, j'ai fait presque 10 ans à la Fédé, ouais.
Comment tu la vis, toi, cette époque, justement, avec cette génération 94, où vous êtes très forts, hein, tous les quatre. Vous gagnez quand même beaucoup de titres, on est d'accord, de champion d'Europe, notamment, enfin, ensemble, on parle beaucoup de vous, c'est vrai, parce que vous êtes dans votre catégorie d'âge quasiment, enfin, quatre, un très, très bon niveau. Comment tu le vis ? Tu as l'impression que tout ça est normal, que finalement, tu sens une pression quand même commencer à enfler, toi ou...
Alors déjà, mon année à Boulouris, je trouve que ça a peut-être été la plus facile parce que avec l'insouciance de la jeunesse et le fait de ne pas être encore avec Greg, avec Lucas ou même avec, si quoi que j'étais avec Laurent à Boulouris, mais c'était pas vraiment pareil parce qu'on était plus jeunes. On est arrivés tous les quatre à l'INSEP ensemble et c'est là où on a appris vraiment à se connaître et à se tirer la bourre déjà à l'entraînement. Et c'est vrai que chacun a eu des résultats un petit peu significatifs assez rapidement. Moi, je me souviens que j'avais gagné, par exemple, des gradas en junior. C'était l'équivalent de grand chelem, des choses comme ça, alors que j'étais encore cadet. Je me souviens que Lucas, par exemple, faisait déjà des derniers tours de qualif en challenger où il bat des mecs 200, 250 ATP. Et je me souviens qu'il perd sur Olive Patience en 3-7, je me souviens de Grégoire qui enchaîne plein de victoires sur des grades 4, des grades 3, et Laurent un peu pareil aussi. Et c'est vrai que je crois même qu'on a parlé de génération dorée à un moment donné par rapport à nous. Et je pense qu'on l'a tous, on a tous ressenti une petite pression. En tout cas, moi, pour ma part, c'est vrai que je l'ai ressenti. Et en fait, on ne l'a jamais abordé, ce truc-là, avec nos entraîneurs à l'INSEP, en tout cas. Moi, le premier entraîneur qui m'a un peu parlé d'humilité, de la peur de la compétition et de toute la difficulté. C'est Manu au final quand je suis arrivé au CNE. Et je pense que par rapport à ça, un mec comme Lucas avait beaucoup plus de simplicité au niveau de ses émotions et de l'approche de la compétition. Et j'ai trouvé que, bon, lui, je pense qu'il a été un peu plus protégé, entre guillemets, malheureusement, parce qu'il s'est beaucoup blessé à l'INSEP. Donc, il a finalement très peu joué. Mais par contre, dès qu'il jouait, c'est vrai que c'était incroyable. Il faisait tout le temps claquer un résultat. Et voilà, moi, j'ai ressenti un petit peu de pression, surtout en junior, où j'avais l'impression qu'on attendait vraiment que je gagne un grand chelem, que je fasse partie des 5 meilleurs. Et ça a été dur quand même. Ça a été dur parce que
Mais
ton sport que
tu te la mets tout seul ou tu as l'impression que c'est l'environnement, tu as l'impression que c'est la Fédé, tu as l'impression que c'est les médias parce que quand tu dis je me mets la pression parce que vous progressez, vous êtes quatre très bons joueurs, donc c'est ce que tu dis, vous faites chacun votre tour d'excellents résultats. Est-ce que c'est un truc qui est personnel quand tu avances justement, moi je me la mets, ou tu as l'impression que c'est plutôt global et c'est l'environnement qui fait qu'on se retrouve un petit peu sous le poids justement de cette ouais, du résultat obligatoire.
J'ai l'impression que c'est plutôt global parce que, en fait, j'avais ce sentiment qu'une fois que je faisais un bon résultat, en fait, j'étais plus libre, entre guillemets. Je me sentais plus serein après quelques résultats parce que, malheureusement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne à la Fédé. Et je trouvais qu'on le ressentait vachement à l'INSEP. Et du coup, nous, dans notre génération, on était quatre et je trouvais qu'on était quatre à vraiment être. Assez serein sur nous parce qu'on entendait et on savait qu'on jouait bien. Et je pense qu'on a perdu un peu de temps là-dessus aussi, nous, du coup, parce qu'on s'est laissé un peu aller, on a manqué un peu d'humilité par moment, par nos résultats et par le fait que nos entraîneurs nous disaient grosso modo qu'on était bon, quoi.
Mais donc ça, quand tu dis ça, c'est hyper intéressant et en même temps, tu as le recul aujourd'hui. Tu as le sentiment que vous vous êtes vu avant l'heure.
Ouais, clairement. En tout cas, moi, pour
D'accord.
ma part, après, je ne sais pas si Lucas pensera la même chose. À mon avis, non, puisqu'il a beaucoup plus progressé que moi. Mais je pense qu'un mec comme Greg ou même un mec comme Laurent, c'est des mecs qui ont pu ressentir comme moi à un moment donné. Je me suis vraiment dit, bon, je gagne pas trop, mais voilà, ils savent que je suis bon. Tu te dis un peu que ça va aller, quoi. Tu te dis non, mais ça va le faire. Tu vois le fameux où ça va, je vais
Vous en avez
m'entraîner, je vais
parlé entre
forcer.
vous? Vous en avez parlé entre vous, enfin, a posteriori, donc? Jamais? Vous êtes jamais revenu sur ce genre de discussion ensemble? Non?
Non, non.
Avec
Peut-être un
Greg
peu avec
notamment et
Greg,
Laurent?
avec Greg plus qu'avec Laurent, où vraiment on savait que c'était ça, quoi. Je me souviens de un peu sur le ton de l'humour. Non, mais ça va, tu viens de gagner un grada, mec, c'est pas grave, là, tu fais premier tour, qu'est-ce qu'on s'en fout, ça va aller, tu vois. Et finalement, en fait, tu perds un peu le fil, t'es plus dans le présent, tu te complais un peu dans ce que t'as fait, et puis tu te projettes en te disant que du coup, ça va aller, et t'es plus dans le travail vraiment. En tout cas, c'est comme ça maintenant que je l'ai ressenti. Il y a eu beaucoup de moments où je m'étais satisfait de ce que je faisais et on me le faisait ressentir aussi, on me le faisait ressentir que ce que je faisais à ce moment-là, enfin moi quand j'ai gagné par exemple la Copa Gerdau et j'avais 16 ans, c'était un grade A, bah on m'a dit c'est monstrueux, t'en rends pas compte, je me suis vu gagner Roland Junior et tout quoi, tu vois. Mais au final j'ai jamais gagné un
D'accord.
match à Roland par exemple.
Après, sur la dimension je sais pas, la difficulté à aborder justement la pression, donc je pense que c'est quand tu arrives un peu après les juniors, hein, où finalement là tu
Bien
te rends
sûr.
compte finalement que la difficulté bah, est beaucoup
Et
plus
là, ouais.
grande que tu l'imaginais. Tu le mesures sur le moment, que ça va être beaucoup plus dur que prévu. Est-ce que rapidement t'en prends conscience ou est-ce que justement pas du tout? C'est beaucoup plus, enfin, c'est plus long, la prise de conscience elle est longue.
Non, la prise de conscience est très rapide parce que je bosse tout de suite au CNE avec un entraîneur qui est que là-dedans en fait, qui est Manu, qui est quelqu'un de un entraîneur très exigeant et très rigoureux et qui nous, je me souviens très bien des premières discussions avec Lucas, c'était les gars, voilà, sachez que vous allez avoir peur chaque fois que vous allez rentrer sur un terrain et ça va être hyper dur. Là, c'est plus les juniors et on l'a aussi constaté en arrivant sur le circuit futur où chaque match était hyper dur à aller gagner, à contrario d'un match en junior où tu sais que en jouant pas vraiment de par ton statut, ton classement, etc., tu fais le break, presque le joueur il se couche, tu vois. Et là, tu te rends compte, tu arrives sur le circuit pro, qu'il n'y a plus un joueur qui se couche, que tout le monde se fout de ce que tu as fait en junior, que tu es juste un joueur de plus qui commence le circuit. Et voilà, donc c'est vraiment la jungle. Et c'est vrai que tu prends des revers. Moi, j'ai pris des revers sur mes premiers tournois que j'ai fait, à pas passer les qualifs, puis à prendre un point ATP, puis à en prendre un autre. Et tu te dis, putain, la vache, ça va être long, quoi. Ça va être long, ça va être dur. Et en fait, je trouve que du coup, ça t'oblige à avoir de l'humilité, ce que j'avais pas forcément en junior, parce que, quelque part,
Mais
sur
parce que vous
certains
avez
tournois,
traversé les moins de 14,
voilà.
les moins de 16, vous vous êtes baladé
C'est ça.
et que vous arrivez que c'est plus dur
C'est
tout d'un
ça.
coup. Vous n'avez pas
Ouais, c'est
rencontré de
ça.
difficultés avant ça, en
Ouais.
fait.
Là, tu arrives, il y a de l'adversité, il y a la difficulté. Et c'est sûr que ça demande beaucoup d'humilité et de patience, quoi. Plein de moments, tu vois, quand je commence le circuit ITF, où, comme je te disais, je prends un point par-ci, un point par-là, et puis tu vois que ton classement, en fait, il fait du surplace. Tu te dis, moi je me disais, je vais pas y arriver, c'est trop dur. Et si j'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Notamment vis-à-vis de mes parents, est-ce que, voilà, après tu te poses plein de questions, est-ce qu'ils vont continuer à m'aimer même si j'arrive pas à jouer, même si j'arrive pas à être fort dans le tennis? Et puis, tu es dans un cadre fédéral, donc je me disais aussi, mais est-ce que mon entraîneur il pense que je suis bon même quand je perds? Et les gens qui m'ont pris à la fédé, est-ce qu'ils me pensent bon? Donc, il y avait ce truc aussi quand au CNE, quand j'arrivais, que je faisais des résultats nuls, alors que enfin j'étais tout jeune, j'arrivais, tu vois. Tu arrivais dans la salle de gym, tu avais Tsonga, tu avais Gilles Simon, Richard Gasquet, mais tu avais d'autres mecs aussi, comme Danière, qui était 150, même 120, je crois, dans ce profil-là. Et tu arrivais et tu disais, moi, là, je viens faire deuxième tour d'un futur, j'ai pris un point et puis je suis 1000 à l'ATP. Tu te dis, mais est-ce
Tu te
qu'un
sentais
jour je vais
gêné?
réussir? Ouais, voilà, gêné, pas à ma place, tu vois. C'est-à-dire que je faisais un entraînement et tu avais Richard qui arrivait, c'était waouh, pourvu que je fasse pas de bois parce que sinon il va vraiment penser que je suis encore plus nul que ce que je pensais, quoi, tu vois.
Attends, tu as quand même des bons résultats, tu as quand même des
Ouais, bien
résultats
sûr.
encourageants. Donc tu te raccroches quand même à ça et tu sais très bien que finalement, enfin, et d'ailleurs tu joues encore, c'est que c'est pas perdu, on va y revenir. Et au
Bien
contraire,
sûr,
d'ailleurs,
bien sûr.
j'espère que c'est parce que tu es
Non,
encore
non.
plein d'ambition, mais et encore très dé, enfin, vraiment déterminé. Mais cette période-là, pour le coup, qu'est-ce qui te manque, toi, à ton sens, encore une fois, parce que tu commences à avoir malgré tout de l'expérience, qu'est-ce qui te manque pour percer, alors que à de nombreuses reprises, j'ai envie de te dire que t'es pas loin quand même. T'es pas loin.
Ouais,
Enfin,
c'est clair.
okay, tu parlais de Grand Chelem. On se souvient à Roland quand même de ton match contre Andy Murray. Que tu n'aimes pas en parler, c'est une chose, mais la réalité, c'est que le niveau de jeu que tu as pu produire, il est excellent. C'est une réalité. Et ça, c'est encourageant, qu'on le veuille ou pas. Il y a un moment, il y a des gens qui seraient jamais capables, seront jamais capables de pouvoir jouer aussi bien. Donc, à un moment donné, de savoir que tu peux. À un moment donné, c'est quand même essentiel de dire que tu peux atteindre de nouveau ce niveau, le jouer, et après, ce qu'il faut, c'est être régulier. Mais c'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui t'a manqué? Et d'ailleurs, ça doit te servir pour aujourd'hui, j'imagine.
Oui, déjà, ce qui est sûr, c'est que je sais que je suis capable de produire un très bon niveau de jeu. Il y a ce match, effectivement, contre Murray à Roland, qui reste quand même, je
J'ai
pense.
dit celui-là, mais c'est un match référence, mais il y
Non,
en a
mais
d'autres, je veux dire, qui
t'as
sont
raison parce
forcément
que
pas connus du grand public.
t'as raison parce qu'aujourd'hui c'est le mec le mieux classé que contre qui j'ai joué. Il était deuxième mondial. C'est l'année où il est numéro un mondial. Il finit numéro un mondial. Donc ça marque plus. Mais il y a eu d'autres plein de résultats encourageants. J'ai battu Schwarzman. J'ai battu des mecs 50. j'ai battu une dizaine de top 100 quand même, tu vois. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est des signaux un peu qui me donnent envie d'y croire encore parce que bah déjà, j'ai été 140, tu vois. Donc, j'ai été pas loin. Après, j'ai eu des blessures et puis j'ai pas réussi à défendre mes points. Donc, j'ai eu une perte de confiance et tout. Et je suis toujours pas loin, tu vois. Ce qui me maintient vraiment, déjà, c'est que je suis passionné. C'est que je suis encore quand même à un classement où je joue des qualifs de grand chelem. Mais tu sais que en fait, ça se joue sur 2-3 résultats en plus sur une année que ce que je suis en train de faire maintenant, tu vois. Donc, c'est vrai que je débute chaque saison où je me dis, mais bah, je suis vraiment pas loin. Et c'est ça, quoi. Même si je suis 200, je vois en termes de niveau de jeu que je suis là. Et ce qui me manque, je dirais que c'est un peu plus de recul sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que je manque un peu je pense que je manque un peu de constance sur le plan émotionnel pour faire une saison, traverser une saison, pas sur le même état, parce que ce n'est pas possible, mais en arrivant à avoir moins de hauts et moins de bas émotionnels. C'est-à-dire que quand je fais un très bon résultat, j'ai encore cette tendance, comme je l'avais en junior, à me dire, bon, c'est parti, j'ai compris le truc. Donc, inconsciemment, forcément, t'en mets moins. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Moi, j'en mets moins. Et quand je perds trop ou quand j'ai des sales défaites, je peux les ruminer et vouloir tellement mieux faire que j'arrive pas, en fait, à mieux faire. En fait, j'ai trop d'attentes. Je pense que si j'arrivais sur le terrain à avoir moins d'attentes, à avoir plus de recul et à me dire, de toute façon, des matchs, je vais en gagner, je vais en perdre et je vais même en perdre plus qu'en gagner. Eh bien, je pense que c'est là où j'ai le plus de chances de passer le cap.
J'imagine que quand enfin, tu m'évoques tout ça, c'est très lié à la dimension psychologique. Tu le sais depuis un moment, j'en suis sûr que tu fais des efforts de ce côté-là. Donc, tu vois des préparateurs mentaux pour tout ça, en plus de tes entraîneurs de tennis?
C'est
Ou
pas
c'est
vraiment un
beaucoup plus, c'est plus
préparateur,
complexe?
c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un mec qui s'appelle Christophe Bourgois. D'ailleurs, je sais que tu l'as déjà reçu dans ton bureau parce qu'il a fait un livre qui s'appelle les 10 intelligences. Les 10 intelligences. Et c'est un mec qui, voilà, il est coach de vie, mais moi, je le prends plus comme un mentor. Et c'est quelqu'un qui approfondit avec toi vraiment la dimension psychologique et mentale et de comprendre, tu vois, pourquoi, par exemple, j'ai peur de décevoir, pourquoi j'ai vis-à-vis de qui. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide et ça fait un an qu'on travaille ensemble. Et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment m'aider pour la suite.
D'accord, donc tu cherches aujourd'hui des solutions en fait. Vraiment le
Ouais,
principe pour
je
gagner en
cherche vraiment des
stabilité.
solutions parce que si tu veux, jusque-là, j'ai vu que des préparateurs mentaux qui me disaient, bon, à 5-5, 30A au troisième, là, il ne faut pas que tu penses au résultat, il faut que tu penses à la manière
À
dont
tes
tu vas
routines.
jouer. Super, d'accord. Et j'y arrive pas. Donc, comment on fait? Moi aussi, je peux être préparateur mental alors. Tu vois, s'il suffit juste de dire ça aux gens, point important, il faut penser à plutôt comment tu veux te placer, comment taper tes coups, tes schémas. Les pensées parades, les trucs et tout, génial. Je
T'arrives
remets pas
pas
en
à être
question.
sur les moyens
Non,
à mettre en place plutôt que le résultat.
j'arrive.
D'accord.
Non, ça me parle pas à ce moment-là, ce discours, tu vois. Et je teste plusieurs préparateurs mentaux qui me disent tous la même chose. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, ça sert à rien de voir quelqu'un, puisque si je dois juste penser à mon coup droit au lieu de penser qu'il y a 30 ans et que je veux absolument gagner le point. J'ai pas besoin qu'on me le dise. Je suis pas assez con pour pas comprendre ça, tu vois. Et donc, c'était un peu plus profond de pourquoi j'ai si peur que ça en match, pourquoi par exemple, je suis autant perfectionniste, tu vois, pourquoi j'ai autant d'attentes et vis-à-vis de qui. En fait, tu creuses, tu déblayes vachement certaines croyances, enfin avec Christophe Bourgois, je creuse certaines croyances qui me permettent d'évoluer parce que je me rends compte que c'est juste des croyances et que tout peut évoluer, que le cerveau c'est incroyable, tu peux faire évoluer plein de choses et je pense qu'aujourd'hui je suis quelqu'un de beaucoup plus mature et calme et que ça va m'aider pour la suite vraiment.
On va passer sur cette année 2020 quand même bien perturbée au niveau du calendrier, mais pas que. Comment tu l'as vécu, toi, ce début d'année, ce confinement, cette sortie de confinement et ce reconfinement finalement? Comment tu l'as vécu? Enfin, parce que psychologiquement, ce n'est pas évident quand tu es joueur de tennis. On sait combien c'est difficile à bien des égards, enfin, financièrement aussi, pour beaucoup de joueurs. Je crois que c'est important. On peut en parler, ce n'est pas tabou. Enfin, le
Clairement,
tennis,
oui.
c'est bien pour un certain nombre de joueuses et de joueurs,
Mais pas tout le monde.
mais pas pour tous. Donc, raconte-nous un petit peu cette année pour toi.
Bah pour moi, l'année commençait, enfin, avait plutôt bien commencé. Et en mars, au moment où ils annoncent, déjà, j'avais fait le dernier tour de qualif en Australie. J'avais fait une demi, puis un quart en Challenger. Donc, j'avais plutôt bien démarré l'année. Et en plus, à partir de avril, je savais que j'avais absolument aucun point à défendre jusqu'à octobre, puisque je me suis blessé l'année d'avant aux abdos, puis j'ai eu l'appendicite, donc j'ai pas joué pendant plus de 6 mois. Et bon, j'étais remonté à bloc et en me disant, allez, là, voilà, je suis 250, je sais que j'ai quand même 6 mois où je perds absolument pas un point.
Pendant que tu es
Voilà,
plein d'ambition, tu te dis
bah,
c'est
je suis assez
ça va bien
ambitieux.
se passer.
Je sais pas si ça va bien se passer, mais il y a un peu moins de pression, tu vois, que si j'avais des gros résultats, etc. Et je me dis vraiment avec le bon état d'esprit et la bonne trame, il peut se passer de belles choses. Quand, à quel moment, sur quel tournoi, j'en sais rien. Maintenant, je comprends que c'est plus possible de contrôler les résultats. Et du coup, ça a été assez frustrant parce qu'en plus de ça, je suis quelqu'un qui déteste s'ennuyer et déteste la routine. Donc, comme plein d'autres, hein, j'imagine, et comme plein de joueurs de tennis.
Ouais, mais
Et du
plus ou
coup,
moins quand même.
c'était quand même vraiment long. Le confinement a été long. Dur de s'entretenir, de vraiment bien s'entraîner puisqu'on n'avait accès à rien. Et puis, même quand il y a eu le déconfinement, on n'avait toujours pas de date de reprise de tournoi. Du coup, on s'est encore entraîné pendant 3 mois. Et puis, il y a un moment, ça devient très long parce que tu t'entraînes sans objectif de reprise. Et ça a été très lassant, en fait. Très lassant. En plus de ça, comme tu l'as évoqué, sur le plan économique, bah, il ne se passe pas grand-chose. Moi, étant au classement 250, je n'ai pas pu bénéficier, par exemple, de l'aide de Wimbledon parce que je n'étais pas dans le cut des qualifs. J'ai eu l'aide de l'ATP. Donc, c'est déjà ça, bien sûr. Mais quand tu vois ce que propose l'ATP, c'est sûr que ça remplacera jamais une qualif de Grand Chelem.
L'aide de l'ATP, c'était combien
L'aide de
justement pour
l'ATP, c'était pour les
des joueurs de
400
ton classement?
premiers et on a reçu 8 000 $ de l'ATP.
D'accord.
Donc, c'est sympa, mais tu sais ce que c'est, joueur de tennis, tu as tes entraîneurs à payer, tu as tes charges
Il y a beaucoup de frais, ouais.
à payer, ton loyer, enfin voilà, il y a énormément de frais. Heureusement, la Fédé a quand même mis en place des tournois cet été qui nous ont permis quand même financièrement de s'y retrouver un petit peu. Et puis ensuite, c'était la reprise des tournois. Donc à partir du 17 août, moi, je me suis dit dans un premier temps, OK, il bloque les points, c'est pas si mal, puisque finalement, j'ai toujours pas tant de points que ça à défendre. Donc ce qui veut dire que je vais pas chuter au classement, je vais faire que monter si jamais je joue bien, tu vois. Donc j'étais parti comme ça en me disant, allez, ça va être bien. Et puis, je me rends compte au bout de deux tournois que ça va être hyper dur. Parce que les challengers sont méga forts, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tournois et que du coup, les cuts, ils sont plus à 300, mais ils sont plutôt à 200, voire 180. Donc là, je me disais même, mais là, je ne vais jamais rentrer dans une qualif de challenger. Donc ça va être en fait hyper dur. Et puis tu vois les tournois avancer, tu vois que tout le monde joue parce que tout le monde se dit comme moi, en fait, ah, j'ai pas de points à défendre, j'ai que des points à gagner. Mais en fait, quand tu joues pas, je me suis rendu compte là que quand je jouais pas, je perdais des places. Alors que quand je jouais pas, mais sur une année normale, bah, tu avais forcément des mecs qui perdaient des points, d'autres qui en gagnaient. Donc ça s'équilibrait. Et là, ça s'équilibrait plus. Tu voyais les points augmenter. Tu voyais que pour être 150, il fallait style 400 points. Ben maintenant, il en fallait 500. Pour être top 100, il fallait 600 points. Maintenant, il en faut 800. Et en fait, tu te dis, il faut que je joue beaucoup. Il faut que je joue très bien, parce que sinon, je vais perdre vraiment des places. Et puis, j'ai bien joué sur mon troisième tournoi. C'était un 100 000, c'était une finale. Ça m'a donné un peu d'air. J'aurais pu continuer à monter au classement, mais j'ai pas forcément fait les résultats. Et comme je l'ai dit juste avant, quand tu fais pas de résultats, en fait, tu chutes au classement, quoi.
Là, quand tu me dis il y a 8 000 dollars, c'est ça, un dollar d'aide de la part de l'ATP, il y a eu des tournois justement de la Fédé aussi organisés. Hein,
Ouais.
mais finalement, on est bien d'accord, ça reste dérisoire par rapport à ce que peut coûter une année pour vous, un joueur de tennis.
Bah, complètement, c'est sûr. Après, il y a eu même cumulé l'aide de l'État, parce que l'État nous a apporté des aides, parce qu'on est des joueurs de tennis, mais on est des travailleurs indépendants. Donc, on a bénéficié pour la plupart, on a bénéficié de l'aide de l'État. Il y a eu l'aide de l'ATP. Par miracle, j'ai eu aussi une aide de l'US Open de 7 000 euros. Mais grosso modo, tu vois, à l'arrivée, quand tu additionnes tout, ça fait à peu près 20 000 euros. Et 20 000 euros, aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas suffisant. Et ce qui est dommage, c'est que l'ATP met du temps à comprendre qu'il faut aider les joueurs hors top 100, qu'il faut augmenter les prize money. Par exemple, ça fait 20 ans que les prize money en Challenger n'ont jamais augmenté.
Ouais, alors
On
là
augmente.
je te coupe, mais c'est important de dire, ce n'est pas important d'augmenter l'ensemble des prize money. C'est important, tu l'as spécifié, sur les challengers et dans les catégories finalement
Voilà,
inférieures.
sur les
On
premiers
ne parle pas
tours,
des
sur
grands
les qualifs
chelems,
de
on ne
Grand
parle pas.
Chelem, parce que les joueurs qui jouent des qualifs de Grand Chelem, c'est des joueurs qui jouent des challengers. Donc effectivement, aujourd'hui, grosso modo, moi qui suis un joueur de qualif en Grand Chelem, je sais que dans l'année, il y a quatre tournois qu'il ne faut pas rater, c'est les quatre Grand Chelem, parce que c'est vraiment eux qui vont me permettre de pouvoir financer mon année, payer mon académie, toutes les charges, etc. Et je trouve ça vraiment dur. Que sur les challengers, par exemple, il n'y ait que 300 euros au premier tour d'un challenger. Parce que un challenger, pour aller le gagner, c'est quand même ultra dur, sachant qu'il y a des mecs top 100 qui s'inscrivent sur les challengers. Il y a des mecs 60 qui jouent des challengers. Et aujourd'hui, tu te dis aussi que le mec 60, il va faire un challenger, et potentiellement, s'il perd au premier tour, il prend que 300 euros, alors qu'il est 60e mondial. Et moi, je suis 200e mondial. Et tu as des mecs qui sont 150e mondial, et ils gagnent pas d'argent en faisant leur métier, si ce n'est sur les quatre grands chelems.
Mais ce n'est
Je
pas
trouve ça très, très
l'augmentation.
injuste.
Ouais, bien sûr, et tu as raison, mais c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. Toi, tu as suivi justement un petit peu la montée en puissance là, de Joko avec le PTPA et cette volonté d'être mieux représenté au sein de l'ATP. Tu l'as suivi un petit peu? Tu suis d'ailleurs ce
Non, je
groupe
suis
qui s'est
pas,
créé ou pas?
j'ai pas signé ce papier. Je sais même pas où est-ce que je peux le signer. Donc, je me suis pas renseigné plus que ça. Après, j'ai eu des discussions avec des joueurs très engagés dans ce projet. Et effectivement, quand ils te parlent de ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire quand même essayer de faire connaître un peu plus les joueurs hors top 100. Et donc pour cela, ce serait par exemple vendre à une seule chaîne tous les droits télé-tennis, que ce soit des Challengers jusqu'à Roland-Garros, Wimbledon. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde Wimbledon, par exemple, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était sur beIN Sport, puis Roland, c'était sur Eurosport, puis ici, puis ça. Là, grosso modo, ce qu'ils veulent faire, c'est tout vendre à une même chaîne, à un prix beaucoup plus élevé que ce que ça ramène aujourd'hui au tennis, en vendant à plusieurs chaînes. Et du coup, c'est ce qui permettrait d'augmenter les prize money sur les tournois, que les joueurs soient mieux connus.
Se servir de cet argent des droits télé pour le reverser, c'est ça,
Pour pouvoir,
plus
ouais,
équitablement
c'est ça, c'est ça.
sur
Après,
l'ensemble.
j'ai entendu des sommes
Voilà.
astronomiques. J'ai entendu que, par exemple, l'objectif de Joko, ce serait que dans 2 ans, il y ait 50 000 euros au premier tour des qualifs d'un grand chelem. Ce qui, aujourd'hui, me paraît inhumain. Mais en même temps, ben, je trouve pas ça. J'ai envie de dire aussi, ouais, mais en même temps, on les mérite. Je veux dire, aujourd'hui, je suis 200e mondial. Si on compare au foot, je suis le 200e meilleur joueur du monde dans le foot. Je suis qui? Je suis mieux que Payet, je pense. J'y connais rien au foot. Mais Payet, il prend 500 000 par
C'est
mois, tu
dangereux là, attention, c'est dangereux ce que tu dis. Ouh là là. Écoute, ouais,
Bon,
après, je ne sais
c'est.
pas si on peut comparer le tennis avec le foot, qui est un sport beaucoup plus populaire, enfin, tu vois, qui génère beaucoup, enfin, dans l'écosystème en tout cas, beaucoup plus d'économies que le tennis, j'imagine. Après, c'est toujours difficile, je trouve, de comparer un sport à un autre. Mais après, moi, ce qui. Alors, c'est marrant parce que j'aime bien l'idée du débat, là. Je trouve qu'on atteint des sommes qui sont quand même déjà très, très, très importantes en Grand Chelem. Je pense que l'augmentation des prix dans les qualifs de Grand Chelem, je l'entends. Après, quand tu me dis commencer à augmenter les premiers tours, parce que je crois qu'au premier tour, maintenant, on est autour de 50 000 dollars ou euros au premier tour d'un Grand Chelem, quand on perd, c'est quand même colossal. Déjà, je trouve que moi, je trouve ça assez dur de revendiquer encore beaucoup plus d'argent. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de dire qu'en effet, augmenter ces enveloppes dans les challengers, voire dans les futurs, pour que tout le monde puisse en vivre mieux, je l'entends. Mais si c'est encore, parce que là, quand tu parles d'augmenter, donc c'est de mettre à 50 000 euros dans les qualifications de Grand Chelem, ça me paraît colossal, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'au premier tour du Grand Chelem, il y aurait combien?
200 000 à peu près, c'est ce qu'il disait. Il disait que
D'accord.
ce qui viserait, ce serait 200 000 dans les premiers tours de Grand Chelem. Après, bon, peut-être que je m'emballe un peu, mais tu
C'est
vois, ce
beau,
que.
hein? Eh, non,
Ah,
mais ça
bah,
serait magnifique, mais.
c'est exceptionnel. Mais
Mais.
ce que je veux dire, c'est que je trouve que augmenter sur les premiers tours, tu vois, pour les joueurs bah, qui en ont besoin, plus que sur augmenter sur des quarts ou des demi, où c'est
Ça, c'est
souvent les mêmes
sûr. Non,
joueurs,
mais ça, c'est sûr.
c'est
Faut
quelque
arrêter
chose qu'il
ça.
faut continuer à faire.
Bien
Pour,
sûr.
parce que justement, nous, on a vraiment l'impression qu'on sert à rien, quoi. Qu'on ne soit pas entendu, etc. Je peux le comprendre parce que j'ai pas de poids dans le tennis. C'est pas moi qui ai fait évoluer le sport et c'est pas moi qui amène les spectateurs.
Mais tu
Mais
parles
les
quand même
tournois, les...
d'injustice.
Ouais, bien sûr, bien
Tu
sûr.
parles d'injustice au fond.
Mais
Quand
injustice,
tu dis c'est
injustice
pas
parce
assez
que
par
je...
rapport
Par
à
rapport à
notre
tout le
engagement, par
travail, tout
rapport à notre classement.
l'engagement, tout le classement, j'ai déjà eu des discussions avec des gens. Tu fais quoi dans la vie? Je suis joueur de tennis. Ok, t'es deux, combien? T'es 200e mondial. Ah, ok, d'accord. Bah, quoi? Bah, non, je pensais que t'étais mieux, mais tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis médecin. T'es combienième dans le monde médecin, toi? Et le mec peut pas te répondre parce qu'il dit, bah, je suis même pas 200e en France.
Est-ce que toi, tu as l'impression qu'ils ne te considèrent pas comme un joueur de tennis professionnel, en fait? En tout cas,
Bah ouais.
comme. Ouais, c'est pas pour eux, c'est pas un métier d'être 200e ou 250e mondial.
Ouais, j'aurais l'impression d'être joueur de tennis le jour où je suis dans le top 100. Vraiment.
Ouais, toi, tu as l'impression aujourd'hui, c'est ça, de presque pas être considéré. Tu te considères comme un pro, mais tu n'as pas
Ah ouais,
l'impression
moi je
d'être
me. Voilà.
considéré comme un pro. C'est
C'est
ça.
ça. Ouais.
Ouais, tu le ressens vraiment. D'accord. Ouais, c'est plus. Ouais, par méconnaissance en fait aussi de la difficulté d'arriver au plus haut niveau. Enfin, tout ça, tu peux
Oui.
pas en vouloir. C'est
Non,
compliqué,
non,
quoi. Mais
c'est clair, c'est clair.
je vois très bien. Enfin, il y a encore pas si longtemps. Enfin, c'est aussi la place du sport finalement dans notre société là qui est peut-être à
Oui.
remettre en question, hein. Ça va bien au-delà, tu vois. Il me semble que c'est malheureusement un peu laissé de côté un petit peu trop malheureusement. Enfin bon. C'est un autre débat, on ne va pas l'ouvrir. Je pense que c'est compliqué. Bon, et dis-moi justement, alors, donc, année, ok, somme toute assez compliquée. Mais la suite, alors, aujourd'hui, tu as quel âge? 26?
26, ouais.
26 ans. Tu es 210e mondial.
Ouais.
Tu commences à te connaître un petit peu.
Ouais.
Tu as dit que tu commençais quand même à savoir
Ouais.
l'orientation que tu devais prendre. Ok? Donc
Ouais.
là, et puis j'espère bien, et c'est un peu tout l'objet, tu y crois encore plus que jamais, autrement tu aurais arrêté, j'imagine, et j'espère, si tu n'y croyais plus, tu ne fais
Ouais,
pas
bah
ça
clairement, ouais.
par plaisir, si, par plaisir, mais c'est quand même un métier,
Non, mais
et tu te
pas
bouges.
je fais pas ça par peur de faire autre chose ou par
C'est
peur du
ça.
vide ou quoi que ce soit
Pas
parce
par
que
défaut, tu ne le fais pas par défaut.
non. Non, je le fais pas par défaut parce que déjà je commence à réfléchir un peu à mon après-carrière. Il y a des choses qui m'intéressent. Je me suis penché sur des écoles éventuelles qui pourraient m'intéresser après ma carrière. Et donc, je sais que malgré tout, avec mon statut de sportif de haut niveau, on a quand même accès à certaines choses et c'est rassurant. Donc ça aussi, je trouve que ça donne du recul. Moi, c'était un recul important pour moi parce que je me disais, tiens, je sais que je vais être plus qu'un joueur, je vais être plus qu'un joueur de tennis, je vais être autre chose aussi à un moment donné et tant mieux, je vais pas avoir peur d'arrêter. Maintenant, voilà, comme je t'ai dit, moi, je pense aujourd'hui me connaître mieux et mieux comprendre mes comportements et les moments où je flanche. Et j'espère de tout cœur qu'il y ait une année normale l'année prochaine et que j'arrive à le mettre en place le mieux possible parce qu'effectivement, je me sens capable de rentrer dans les 100 meilleurs dans un premier temps. Si ce n'est pas cette année, j'espère sincèrement que ce sera l'année d'après.
On n'est pas du tout dans une démarche de reconversion aujourd'hui, c'est pas du tout ce que tu dis.
Non, je suis pas dans une démarche de reconversion, mais je suis assez lucide pour me dire que si, par exemple, à 30 ans, j'ai le même classement, j'arrêterai. Parce que je
Ouais, tu.
continuerai pas comme ça. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut, tu te lasses aussi, entre guillemets, c'est un peu méchant comme expression, mais tu as raté le wagon. Et à un moment donné, enfin, je pense qu'il faut aussi l'accepter. Je continuerai pas toute ma vie 200e. En espérant continuer à passer, alors que je sais qu'à un moment donné, si je dois passer le cap, c'est là dans les 2 ans, parce qu'après, on sait que ça devient de plus en plus dur. Et voilà, je pense que ça, c'est plus de la lucidité qu'autre chose. Et aujourd'hui, ça me met moins de pression, d'essayer de passer le cap, parce que je sais que je ferai quelque chose de bien, après le tennis.
Ouais, on sent que tu as besoin de ça quand même, d'être rassuré, enfin, de prendre un peu de
Ouais,
distance par
clairement.
rapport à ça, ce côté hyper perfectionniste, la pression que tu te mets, hein, tout simplement, par peur de rater tout ça, on sent quand même que dans ton discours, dans ton propos depuis le début, que ça ressort très régulièrement. Mais qu'est-ce qui fait finalement que tu puisses te dire, le jour où tu arrêtes, j'ai réussi?
Putain, ça, c'est une sacrée question, hein.
C'est pas qu'une question de classement, on est d'accord.
Non,
C'est pour ça que je te pose
là,
cette
c'est un
question.
vrai ressenti, c'est un état même, je dirais, de se dire j'ai réussi. Je ne suis pas arrivé encore à ce stade où je peux plus jouer au tennis. J'en suis très loin. Mais je ne suis pas non plus au stade où je me dis tiens, j'ai réussi et c'est vrai que je suis pas satisfait de ce que j'ai, de là où j'en suis aujourd'hui. Mais
Mais est-ce que tu
j'ai
seras
réussi.
plutôt, d'après toi, une sorte d'éternel insatisfait, ou est-ce que tu pourras te dire, le plus tard possible, hein, j'insiste, quand tu auras été de nombreuses années dans le top 50, tu te diras, enfin, le fait de se dire j'ai réussi, c'est quoi? C'est d'être allé au bout, mais peu importe un peu le classement, d'avoir cherché en fait les solutions, d'avoir essayé de trouver les clés à un moment donné. Dans des moments compliqués, et c'est ce que tu fais en essayant finalement de découvrir d'autres personnes, d'aller
Ouais, je suis en
chercher des
recherche, c'est
personnes
sûr.
ressources dans différents domaines. Tu es quand même en quête de progrès. Est-ce que c'est suffisant ou il faut quand même que ça se caractérise par un résultat, par des résultats et par un classement qu'on le veuille ou pas, d'après toi?
Malgré tout, ouais, la première chose qui sortait, c'est que je te dirais, j'ai réussi si je suis top 50 et que du coup, ça m'amène à penser que je serai toujours insatisfait, même si j'y arrive, parce qu'une fois que je serai top 50, je suis sûr que je me dirais, mais j'aurais pu être 40, puis j'aurais pu être 30. Donc, je pense que la chose qu'il va vraiment falloir que j'accepte, c'est que je serai certainement pas satisfait de ce que j'aurais fait. Sauf si je gagne
Mais quand
Roland d'ici
même,
là, mais.
après, il y a forcément une différence. Et te dire à la fin, j'ai été top 100 ou. Là, aujourd'hui, il y a quand même une sorte de sentiment, un goût d'inachevé.
D'inachevé,
C'est
complètement.
ce qui t'anime quand même. Et tu te dis, j'ai
Ah,
été
complètement, ouais,
140e, je
complètement.
vaux mieux que ça.
Complètement,
C'est
ça,
ce
je
qui
me
te
le
fait
dis,
continuer.
je le sais, je le vois quand je m'entraîne, quand même sur certains tournois, quand je suis bien rodé, je vois qu'il se passe des choses et c'est pour ça que je suis insatisfait de là où j'en suis. Mais si jamais je passe pas le cap, je pense que j'arriverai à me dire aussi, j'ai été en recherche, j'ai essayé. Effectivement, je suis déçu et il va falloir que j'accepte ça, mais j'ai recherché à faire évoluer un état qui pourrait m'amener à de la bonne performance, de la vraie performance.
Ouais, une dernière question avant peut-être de conclure. Qui c'est le joueur aujourd'hui, enfin, qui t'inspire et finalement qui te fait rêver? C'est quoi? C'est un Djoko dans son engagement, dans sa manière de jouer? Est-ce que c'est plutôt, après ça peut être Federer, Nadal, mais ça, y en a plein d'autres, hein, ça, peu importe. Est-ce qu'il y en a certains ou qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore d'ailleurs et qui te montrent un peu la voie finalement à suivre?
Alors, un mec comme Djoko m'inspire parce que justement, lui, ce travail hors tennis sur l'aspect psychologique et tout, je pense que c'est un truc auquel il croit et qu'il approfondit. Et on sent que c'est quelqu'un qui a des névroses et il a besoin de les comprendre. Après, je suis
Tu veux
fasciné
dire
par.
que tu as l'impression d'en avoir aussi?
Je pense qu'on en a tous surtout. Et que tu en as qui sont capables d'aller les chercher et les voir, et d'autres qui font semblant de ne pas en avoir. Et un mec comme Nadal, pour moi, c'est juste fascinant dans l'engagement et dans la passion qu'il peut mettre sur chaque frappe et depuis tellement d'années. Mais moi, je suis plutôt ancienne génération. Moi, j'adorais regarder jouer Nalbandian, Coria, les mecs comme ça, c'était pour moi, c'était vraiment eux mes idoles, quoi. Mais ils jouent plus. Il y a eu Federer, mais c'était surtout une question de jeu. Je trouve c'est ils jouaient au tennis. Aujourd'hui, on est tous des brutes, alors qu'eux, ils jouaient au tennis. C'était beau à voir. Il y avait quand même, tu voyais qu'il y avait une tactique, qu'il y avait une stratégie. Il y avait, ça jouait moins vite, donc c'était plus
C'était
beau à
plus fin,
regarder. C'était plus fin, voilà.
plus
Et c'est
subtil
pour ça,
qu'un tennis.
voilà. Et c'est pour ça que j'ai énormément apprécié aussi mon match contre Murray. C'est que j'ai senti tout le match que c'était une partie d'échec et que ce n'était pas celui qui frappera le plus d'ace ou qui prendra tout de suite l'ascendant qui va gagner le match. Et c'est vraiment ce que je retiens de ce match-là.
Mathias, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
D'être heureux.
C'est tout, c'est le plus important, et d'être heureux, ça passe par... Ça passe par des bons résultats, ça passe par pas de blessures, ça passe par un déconfinement total et qu'on en finisse enfin avec cette espèce de Covid
Ouais, exactement.
qui nous embête un petit peu tous
Ouais,
quand même, de
c'est
manière très
clair.
globale. Ouais.
Ouais,
C'est
ça
ça
passe
ce
un
qu'on peut
peu
te
par tout
souhaiter?
ça. Ça passe un peu par trouver l'état émotionnel, un état émotionnel un peu plus stable. Et je pense qu'à partir de ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent se goupiller dans le bon sens, avec un bon état d'esprit.
Écoute, je crois que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Un bon état d'esprit, c'est magnifique.
Voilà.
Mille fois merci Mathias pour ce témoignage. On
Bah
se tient
écoute,
au
merci
juge, je te
Arnaud.
remercie mille fois
Yes.
mec. Et bien, Deep Talk, c'est déjà terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, si vous aimez, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous et commentez sur les plateformes de podcast. Merci. À la semaine prochaine. Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.